Nos devoirs envers le Saint-Esprit. Texte biblique, Épître aux Galates, chapitre 5, verset 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Les méditations précédentes doivent avoir montré que le Saint-Esprit est l'unique organe de la vie spirituelle. L'homme naturel ne naît à cette vie que s'il y est engendré par le Saint-Esprit, et l'homme régénéré n'en acquiert qu'autant que l'Esprit lui en communique. Ainsi, cette vie divine, qui, nous l'avons vu, réveille et forme la conscience, affranchit et fortifie progressivement la volonté, enflamme le cœur et illumine l'esprit, cette vie ne se maintient et ne se développe que dans la mesure où l'action de l'esprit se maintient elle-même et se développe. En un mot, nous vivons de la vie spirituelle, de la vie de Dieu par l'esprit, et nous n'en vivons que par l'esprit. Si beaucoup de chrétiens sont atteints de langueur, c'est donc parce que l'œuvre de l'esprit s'est ralentie, peut-être même arrêtée depuis longtemps dans leur âme. Si chez d'autres, au contraire, la conscience devient toujours plus délicate, la volonté plus énergique pour le bien, le zèle plus ardent, si le cœur bat plus fort pour la cause de Dieu, pour le salut des âmes, pour le soulagement des misères physiques et morales, si leur vie est plus conséquente et plus consacrée, c'est que l'influence du Saint-Esprit a gagné chez eux en intensité et en étendue. Ces ralentissements ou ces progrès, ces variations dans l'action du Saint-Esprit, ne sont-elles soumises à aucune loi? Sont-elles indépendantes de la volonté? Ont-elles un caractère fatal, celui des phénomènes que l'on peut constater, mais non pas modifier ou produire? Ou bien Dieu nous a-t-il révélé et donné les moyens de régler et d'accroître l'action de l'Esprit? En d'autres termes, le Saint-Esprit agit-il comme une force physique ou un agent chimique agit sur la matière? Non, le Saint-Esprit est une force morale. Bien plus, c'est une personne sainte et libre, pénétrant une autre personne, la nôtre, que Dieu a faite libre et voulue sainte. Cette action ne peut donc être fatale. Elle est libre et dépend de la volonté de l'Esprit qui l'exerce et de celle de l'homme qui la subit. Elle dépend d'abord de la volonté de l'Esprit, par conséquent de la volonté de Dieu. C'est là ce qui en fait une grâce, et toujours une grâce. L'homme n'a par lui-même aucun droit au Saint-Esprit. C'est un don de Dieu. Et si Dieu ne voulait pas le lui accorder ou le maintenir après l'avoir accordé, les efforts de l'homme pour l'obtenir et le retenir seraient complètement inutiles. Mais, grâce au sacrifice de Jésus-Christ, la volonté de Dieu est que chacun reçoive ce don et en recueille peu à peu tous les bienfaits. C'est là un fait acquis et immuable, de sorte que du côté de Dieu, il ne peut y avoir d'obstacle à l'extension indéfiniment progressive de cette œuvre. Les ralentissements, les suspensions ou les reculs que l'on y constate, bien loin d'être conformes, sont contraires au désir de Dieu qui veut l'homme parfait et travaille à le rendre tel. Ainsi, la cause doit en être cherchée en nous qui ne remplissons pas nos devoirs envers le Saint-Esprit. Nous avons donc des devoirs envers le Saint-Esprit? Certainement. Et il importe de les connaître, plus encore de les pratiquer fidèlement, puisque de là dépend le succès de son œuvre en nous. C'est de ces devoirs que je désire vous entretenir aujourd'hui. Que Dieu nous aide dans cette grave étude. Un mot peut résumer tous ces devoirs et nous rappeler la position qui nous convient vis-à-vis de l'Esprit. C'est celui de docilité. Incapables de créer nous-mêmes les grâces du Saint-Esprit, nous ne pouvons que les accepter, nous y ouvrir, peut-être moins encore, ne pas nous y fermer. Nous ne pouvons que nous soumettre docilement à son action. Écouter sa voix et rien que sa voix, suivre ses mouvements et seulement les siens, céder à ses impulsions, répondre à ses appels, exécuter ses ordres, s'arrêter devant ses interdictions, voilà ce que la Bible, ce que Paul en particulier, appelle vivre selon l'esprit, marcher selon l'esprit ou dans l'esprit. Aux yeux de l'apôtre, les mouvements, les invitations, les ordres ou les défenses de l'esprit dont l'ensemble compose tout un plan d'éducation que Dieu suit à notre égard, forment une ligne continue, une route où nous n'avons qu'à marcher, pas après pas, sans faire de résistance. Mais vous parlez d'ordre, de défense et d'appel de l'esprit. Comment peut-on les connaître? Croyez-vous à ces voix intérieures qui ont, de tout temps, égaré certains mystiques jusqu'à leur faire admettre ou commettre des choses monstrueuses? Rassurez-vous, je ne crois pas à l'action de l'esprit sans la Bible. Règle unique et infaillible de vie autant que de foi. La Bible seule révèle, dans leur expression générale, les volontés de Dieu à notre égard. De là, pour quiconque veut marcher selon l'esprit, la nécessité urgente d'étudier constamment la Bible, à la lumière de l'esprit, afin de découvrir toujours mieux les volontés de l'esprit. Et par étude, je n'entends pas une lecture rapide, superficielle, distraite, qui ne laisse que des souvenirs vagues et stériles. C'est de relations intimes et vivantes, d'un commerce journalier, de tête à tête avec la Bible que je parle. Car ces lectures, faites à la hâte, par acquis de conscience, parfois avec un secret ennui, ce n'est pas ce que Paul a en vue lorsqu'il demande que la parole de Christ habite abondamment en nous. Le dirais-je, mes frères, j'ai l'impression que l'étude particulière de la Bible n'occupe pas, en général, dans la vie des chrétiens actuels, la place qu'elle réclame impérieusement. On a tant de livres sur la Bible que l'on en oublie souvent la Bible. On trouve plus commode de se faire nourrir comme des enfants que de se nourrir soi-même. Et puis les cours, les conférences, les réunions, les séances de tout genre, les devoirs de société et les mille moyens de perdre honnêtement son temps envahissent si complètement la vie que l'on ne peut y trouver, même le dimanche, le temps nécessaire pour sonder les Écritures dans le silence du recueillement. De là, en général, un christianisme superficiel, sans conviction vraiment personnelle, de là des caractères détrempés et des vies où manque la saveur, la sève, la vie de l'esprit. N'espérons pas un seul progrès réel et durable si nous ne savons prélever sur nos plaisirs et sur des devoirs contestables le temps dû au livre de Dieu. J'ai dit il y a un moment que la Bible nous révèle les volontés de l'esprit dans leur expression générale. Mais les applications de ces règles varient à l'infini suivant les circonstances. Chacun en a fait l'expérience, et qui ne sait combien il est difficile, même avec une connaissance approfondie de la Bible, de reconnaître la volonté de Dieu dans chaque cas spécial. Ainsi, l'un des préceptes de l'esprit est que nous n'aimions pas le monde et les choses du monde. D'autre part, cependant, que nous ne sortions pas du monde. Et vous savez à combien de questions embarrassantes donne lieu le désir de concilier seulement ces deux règles de la vie chrétienne. Comment donc arriver à connaître, dans chaque cas particulier, notre devoir envers l'esprit? Je ne sais qu'un moyen, c'est une communion continuelle avec lui. Priez sans cesse, ce qui, j'ai à peine besoin de le dire, ne signifie pas soyez sans cesse à genoux dans votre cabinet, mais ayez l'âme toujours en haut, en présence de Dieu, pour l'interroger au milieu même de vos occupations, à chaque difficulté qui surgit, à chaque tentation qui se rencontre, à chaque occasion qui s'offre, à chaque question qui se pose devant vous. Priez mentalement pour avoir de Dieu même la connaissance de votre devoir et la force de l'accomplir. Tel est donc le second moyen de faire parler l'esprit et d'entendre sa voix à chaque moment dans la vie. Oh, demandons à Dieu qu'il nous enseigne le secret de cette élévation continuelle de l'âme, de cet entretien, de ce soupir ininterrompu de l'esprit qui se concilie avec les travaux les plus absorbants. Qu'il nous persuade que rien n'étant trop petit pour lui, nous pouvons, nous devons lui présenter les questions les plus insignifiantes en apparence, les moindres incidents et les moindres difficultés de notre vie. Enfin, une fois la volonté de l'esprit connue, il faut la faire. L'obéissance immédiate, complète, continuelle, humble et joyeuse à tous ses ordres, telle est ainsi, avec l'étude de la Bible et la prière, cette vie selon l'esprit qui est le seul moyen de maintenir et d'accroître son action en nous. Obéissance immédiate, pas d'hésitation et de délai, car plus on tarde, plus l'accomplissement du devoir est difficile et la bénédiction de l'obéissance amoindrie. Comme les subalternes du centenier de Capernaüm, quand le Maître, le Saint-Esprit, nous dit « Va, allons, allons sans retard », quand il nous dit « Viens, venons aussitôt », quand il nous dit « Ferme ce livre, il ne te convient pas, fermons-le tout de suite », quand il nous dit « Garde le silence sur cet acte, enfouis dans le plus profond de ton cœur, sous le voile de la charité, cette faute de ton prochain », il faut que nous gardions le silence, eussions-nous déjà sur les lèvres le mot qui devait la dévoiler. Au contraire, quand il nous dit « Parle, ne te tais point, avertis, reprends, encourage, appelle », il faut que nous parlions, quelques conséquences que puisse avoir notre franchise. Obéissance complète et continuelle, car choisir, trier parmi les ordres de l'esprit, en prendre ce qui convient, laisser ce qui déplaît, un jour écouter sa voix et n'en pas tenir compte le lendemain, c'est faire un acte d'insubordination, de révolte qui contriste le Saint-Esprit. Enfin, obéissance humble et joyeuse, car serviteurs inutiles, ce que nous faisons, nous sommes obligés de le faire, et, bien loin de nous prévaloir de notre soumission, nous devons nous humilier de ses lacunes et rendre grâces à Dieu qui nous en a donné la force. Un modèle de cette obéissance nous est donné dans la vie de Jésus. Relisez-en le récit à ce point de vue, et vous verrez comment notre Maître l'a entendu et pratiqué. Ou bien cet exemple est-il trop élevé pour vous? Voyez les apôtres et les premiers chrétiens dans ce livre de leurs actes, que l'on pourrait appeler le livre des actes de l'Esprit. Et là aussi vous verrez ce que c'est qu'obéir à l'Esprit. Ah, ils sont ses esclaves, esclaves volontaires, joyeux, reconnaissants, mais enfin esclaves. Sur un ordre de lui, ils partent aussitôt, quittent tout, sacrifient tout, affrontent tout, difficultés, dangers, persécutions, souffrances. Sur sa défense, ils abandonnent ou modifient, renversent ou transforment leurs projets. Et malgré les efforts de leurs amis même, ils persistent dans la voie que le Saint-Esprit leur trace, bien qu'ils soient sûrs d'y rencontrer le martyr. Voilà ce qui s'appelle obéir. Voilà comment nous devons obéir. Mais vous objectez votre faiblesse. Dieu ne donne jamais un ordre s'il ne sait que nous aurons la force de l'exécuter. Cette force, il la tient en réserve pour la donner dans le temps convenable. Il ne la donnera pas d'avance, et si l'on attend de la voir pour se déterminer à obéir, on attendra vainement. Quand Jésus dit à l'impotent « Étends ton bras », lui aussi aurait pu dire « Je n'ai pas la force ». Par la foi, il obéit, et la force lui fut donnée en ce moment même. Obéissez aussi par la foi. Obéissez en priant au premier ordre que vous donnera l'Esprit après ce culte. Ne commencez pas demain, mais aujourd'hui. S'il vous dit « Va voir tel malade, fais ce sacrifice, renonce à ce projet », obéissez immédiatement, et ce premier acte de docilité, cette victoire sur la chair, tant minime qu'elle paraisse, cette fidélité en peu de choses augmentera en vous la domination et par conséquent l'influence de l'Esprit. Vous serez établi sur plus de villes, selon l'expression de la parabole, c'est-à-dire que cette victoire, comme chaque victoire pareille, vous élèvera à un degré supérieur de vie spirituelle qui aura des devoirs nouveaux, des difficultés nouvelles, mais aussi des forces nouvelles. Et si vous êtes fidèle à ces devoirs, par l'emploi de ces forces, l'Esprit enraciné toujours plus dans votre âme y étendra son action et vous élèvera plus haut encore. En dehors de cette promotion insensible, par une obéissance continuelle, je ne connais pas de moyen, et il n'y a pas de moyen de conserver et d'accroître la vie de l'Esprit. Au contraire, néglige-t-on ou repousse-t-on ces sollicitations? Laisse-t-on subsister volontairement, sur un ou plusieurs points, un désaccord entre sa volonté propre et celle de Dieu, sans travailler énergiquement à le détruire? On contriste le Saint-Esprit. Ses rapports avec le chrétien infidèle se relâchent. ses liens se rompent peu à peu. La vie spirituelle languit, décline, s'éteint insensiblement. L'esprit, il est vrai, est patient, puisque c'est celui d'un Dieu lent à la colère. Longtemps il supporte dans le cœur qu'il occupe le voisinage de choses qui répugnent à sa sainteté. Mais sa patience n'est pas sans bornes, et quand il a repris, attendu, châtié, fait des sommations sans qu'on tienne compte des déclarations formelles de l'Écriture, il se retire, et après avoir commencé par l'esprit, l'homme finit par la chair. Eh bien, mes frères, cette voie au bout de laquelle est le péché contre le Saint-Esprit, le péché irrémissible, chaque désobéissance consciente, chaque infidélité nous l'ouvre. Oui, nous pouvons insensiblement, sans que les chrétiens eux-mêmes s'en doutent, perdre la vie de l'esprit, tout en conservant des apparences trompeuses. Car l'esprit, en se retirant, laisse parfois subsister les formes qu'il a créées. L'huile s'épuise, mais la lampe reste. On fait encore des prières, des lectures de la Bible, on assiste au culte, on en jouit même dans une certaine mesure, on conserve, en un mot, des habitudes religieuses, on est semblable à ces cadavres retrouvés à Pompéi, dans un état parfait de conservation, dans l'attitude où les a surpris la mort, mais comme le contact de l'air réduit bientôt ceci en poussière, le souffle de l'épreuve, le souffle de la tentation et surtout celui du jugement dernier détruira aussi ces cadavres spirituels. Mes frères, me trouvez-vous trop sévère? Ce n'est pas moi qui le suis, c'est la Bible. Quand j'entends saint Paul nous dire « Je traite rudement mon corps et je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même rejeté. » Quand je lis dans l'Épître aux Hébreux, il est impossible que ceux qui ont été une fois illuminés, qui ont goûté le don céleste et ont été faits participants du Saint-Esprit, s'ils retombent, soient changés de nouveau. Enfin, dans l'Épître de Pierre, si, après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'homme est de nouveau enveloppé par elle et en est surmonté, sa dernière condition est pire que la première. Quand se dressent devant moi ces menaces, ah, je me sens pressé de crier tout d'abord à moi-même, puis aux autres, que celui qui se croit debout prenne garde qu'il ne tombe, et que, pour cela, il ne sorte jamais, pas un instant, de la voie de l'esprit. S'il en est sorti, qu'il y rentre, à tout prix, qu'il renouvelle continuellement ses forces en Dieu, et qu'il marche dans une obéissance humble, complète, immédiate aux ordres de l'esprit, en disant toujours comme Samuel, « Parle, parle, Seigneur, ton serviteur écoute, et après m'avoir donné d'écouter, donne-moi aussi d'obéir. » Telles sont les conditions auxquelles est subordonnée l'action progressive de l'Esprit en nous. Malgré tous mes efforts, je crains d'être resté encore trop dans les généralités. Je voudrais trouver et vous laisser une règle simple, facile à retenir, applicable aux actes, aux paroles, aux pensées, une règle qui pût vous montrer dans chaque circonstance particulière votre devoir envers le Saint-Esprit. Cette règle que j'ai demandée à Dieu, la voici. Soyez dans vos actions, dans vos paroles, dans vos pensées, tel que vous voudriez être, tel que vous vous efforceriez d'être, si vous aviez Jésus-Christ devant vous, en chair et visible pour les yeux de votre chair. Supposez-vous favorisé du privilège qu'eurent à diverses reprises les trois amis de Béthanie, celui de loger le Fils de Dieu sous votre toit, de l'avoir à votre table, à côté de vous, dans votre magasin, dans votre cabinet de travail, dans la rue, partout, en un mot. Ne croyez-vous pas que, durant cette visite de votre maître, votre vie serait bien différente de ce qu'elle est ordinairement, et ne pouvez-vous pas immédiatement, en présence de cette supposition, vous rendre compte de ce que vous feriez et de ce que vous ne feriez pas, de ce que vous diriez et de ce que vous ne diriez pas, des pensées que vous refouleriez et de celles auxquelles vous donneriez libre cours. Vos conversations seraient-elles oiseuses ou malveillantes? N'enverrait-on pas disparaître les jugements téméraires, les médisances, les révélations inutiles, les plaisanteries, les frivolités? Ah, n'est-ce pas, vous craindriez de faire fuir ainsi Jésus-Christ, et vous veilleriez continuellement sur vos paroles, et ce que vous feriez pour Jésus-Christ dans l'abaissement, ne le ferez-vous pas pour Jésus dans son état de gloire, demeurant en vous d'une manière tout aussi réelle et bien plus intime qu'au jour de sa chair chez Zachée, le péager, ou dans la famille de Béthanie? Si Jésus suivait telle sœur dans sa cuisine, telle autre dans son salon, s'il était dans le magasin de celui-ci, dans le bureau ou l'atelier de celui-là, n'y a-t-il pas bien des habitudes, et bien des moyens équivoques de gagner, des infractions à la loi, de la véracité, ou d'autres péchés qu'il s'interdirait en sa présence? S'il passait un dimanche avec nous, le conduirions-nous en chemin de fer ou en voiture quand il serait possible de faire autrement au prix d'un sacrifice? N'éviterions-nous pas de faire acheter ou de vendre sous ses yeux? Ne serions-nous pas aussi trouvés, ce jour-là, du temps pour le suivre chez les pauvres, auprès d'un malade, partout où il y a du bien à faire au corps et à l'âme? Et ce que vous feriez devant Jésus pour le réjouir, vous ne le faites pas devant l'Esprit afin de ne pas le contrister? Mais croyez-vous donc qu'il y ait une différence essentielle entre la présence corporelle de Jésus et sa présence dans votre âme par l'Esprit? En mettre une serait montrer que vous n'avez pas compris le premier mot de la doctrine du Saint-Esprit. Cette règle est donc bonne, mes frères, et nous sommes tenus de l'appliquer dans toute notre vie. Il faut juger de tout par ce critère infaillible. Il faut passer en revue tout, absolument tout, dans notre conduite, dans notre manière de vivre, dans nos habitudes, dans l'emploi de nos journées, de nos facultés ou de nos biens, dans nos entretiens, dans nos amitiés, dans nos récréations, et tout ce qui ne peut subsister devant cette règle doit être combattu, changé ou aboli fidèlement. De tout ce qui nous a occupés, si vous ne gardez que cette pensée, j'ai en moi Dieu, avec toute sa sainteté, et je dois me conduire en sa présence absolument comme si j'avais toujours Jésus-Christ devant moi, vous verrez combien de changements cette pensée seule apportera peu à peu dans votre caractère et dans votre vie. Quand vous serez tenté de vous laisser aller à l'impatience, à l'irritation, au murmure ou à l'envie, la pensée que vous résisteriez à ces mouvements charnels, si Jésus était là, à côté de vous, vous arrêtera puisque vous vous direz qu'il y est en effet, et mieux qu'à côté de vous, en vous. Quand on vous demandera votre concours pour une œuvre de Dieu, un sacrifice qui vous coûtera sans être au-dessus de vos forces, quand vous aurez une réparation, un aveu, des excuses à faire ou tel autre devoir difficile à remplir. Si vous hésitez, représentez-vous avec quel empressement vous le feriez pour Jésus visible et dites-vous que vous avez à l'accomplir pour Jésus présent dans votre cœur par l'Esprit. Ah, si nous avions toujours vécu d'après cette règle, si en d'autres termes, nous avions toujours marché selon l'Esprit, agi selon l'Esprit, parlé selon l'Esprit, pensé selon l'Esprit, nous n'aurions pas à déplorer tant de longueur et de sécheresse spirituelle. Avez-vous jamais pensé à ce qui se perd de vie de l'Esprit seulement dans une conversation? Je voudrais que l'on pût avoir un thermomètre de la vie spirituelle, et l'on serait épouvanté en voyant souvent, à la fin d'une soirée, par exemple, de combien de degrés cette vie est descendue. Et alors, toutes les conversations d'un mois, d'une année, dans cette ville, seulement celle des chrétiens ici réunis, de combien de forces ne privent-elles pas l'Église et le royaume de Dieu? Mes frères, s'il en est ainsi, il faut changer de vie. Il faut que chacun s'humilie pour le passé, puis recherche quel est, pour ce qui le concerne, l'obstacle particulier à l'extension de l'œuvre de l'Esprit. Pour celui-ci, c'est un mécontentement chronique, une habitude de critiquer et de dénigrer qui contriste l'esprit, source de fraternité, de charité et de support. Pour celui-là, c'est le goût de la plaisanterie, une légèreté incompatible avec la sainteté de Dieu. Pour un autre, c'est que ses prières sont toutes pleines de plaintes et de supplications, jamais de ces actions de grâce qui épanouissent le cœur et l'ouvrent largement à Dieu. Tel frère éteint peu à peu l'esprit parce qu'il reste inactif dans l'esprit et enfouit le talent que Dieu lui a confié. Tel autre donne de ses biens terrestres beaucoup moins qu'il ne le devrait et recueille par conséquent en biens spirituels beaucoup moins qu'il ne le pourrait. Il sème chichement, il récolte chichement. Un autre repousse l'esprit par un interdit qu'il tolère dans sa vie. C'est un manque de droiture et de scrupuleuse probité dans les affaires. C'est une transgression connue et ancienne à un commandement positif. C'est une offense qu'il ne veut pas pardonner, comme Christ a pardonné. Enfin, beaucoup de chrétiens, ainsi que je l'ai déjà dit, restent stationnaires parce qu'ils négligent la méditation de la Bible et la prière particulière. Ils oublient le recueillement. Or, s'il n'est pas bon que l'homme soit toujours seul à diviner, il est moins bon encore qu'il ne soit jamais seul. Quand on se fuit au point de ne jamais se retrouver soi-même, il ne faut pas s'étonner qu'on ne trouve pas mieux le Saint-Esprit. On pourrait signaler bien d'autres causes qui nuisent à l'action de l'Esprit dans nos âmes. Celles-là suffisent à chacun de trouver celle qui le concerne et de travailler à la détruire par une lutte fidèle. Car il faut, mes frères, que rien ne s'oppose plus au progrès de cette action. Il faut que par l'obéissance à l'Esprit, nous arrivions à être remplis de l'Esprit. Dieu l'attend de nous. Il a besoin de chrétiens vivants. Il a besoin de parents qui élèvent leurs enfants sous la discipline de l'Esprit. Il a besoin de jeunes gens brûlants du feu de l'Esprit. Membres des unions chrétiennes, et vous, moniteurs, monitrices des écoles, que de bien vous feriez si vous étiez remplis du Saint-Esprit. Pasteurs, anciens, professeurs, diacres, combien notre ministère serait plus puissant si nous étions remplis du Saint-Esprit. Nos leçons seraient plus sanctifiantes, nos paroles plus impressives, nos appels plus pénétrants, nos prières irrésistibles. Il faut que le Saint-Esprit monte avec nous dans nos chairs, qu'il nous accompagne auprès des malades, qu'il parle par nous aux pécheurs. Il nous le faut dans nos comités, dans notre administration tout entière, dans chacun de nos projets et dans chacune de nos démarches. Sans lui, prédication, discours, résolution, effort, sacrifice, tout sera aussi stérile qu'une semence sur du marbre. Mais, fécondé par lui, la moindre parole, la plus chétive prière, engendrera des âmes à la vie nouvelle. Et vous, chers auditeurs, membres ou amis de cette Église, il faut aussi que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Par lui, vous porterez sur vos prières le corps, l'esprit et l'âme de vos conducteurs. Vous décuplerez leurs forces et surtout, vous vous unirez à eux pour rendre témoignage à Jésus-Christ. Église évangélique, n'as-tu pas besoin d'un renouvellement de la vie de l'esprit? Ce n'est pas ton indépendance de l'État, ton organisation et tes ressources qui réussiront à te préserver de décadence et de mort si tu laisses éteindre en ton sein le feu de l'esprit. Mais si tu le rallumes et si tu l'entretiens, alors, bien que faible aux yeux des hommes, ne crains point, l'avenir est au principe que tu représentes. Vous enfin, défenseurs ou disciples du pur évangile dans Genève, savez-vous de quoi l'évangile a besoin? D'orateurs éloquents, de docteurs illustres, d'hommes riches ou influents? Je ne sais. Dieu le sait, et s'il en faut, il saura les fournir. Mais ce que je sais, c'est qu'il demande surtout, dans toutes les classes, des hommes remplis de l'esprit, fidèles à l'esprit, priant par l'esprit, se déterminant à la voie de l'esprit. C'est là ce qu'il faut à Dieu. Donnez-lui de tels hommes, 12 seulement, et Genève redeviendra un foyer de lumière et de vie. Genève n'aura plus rien à craindre du catholicisme ou du christianisme soi-disant libéral. Genève redeviendra Genève. Mais qui nous les donnera, ces hommes? Ou plutôt, qui fera de chacun de nous un tel homme? Un réveil préparé dès aujourd'hui par une obéissance humble, silencieuse, quotidienne, et demandée à genoux par les prières persévérantes de tous les chrétiens. Eh bien, mes frères, préparons-le, ce réveil. Demandons-le, que chacun y travaille, et nous l'aurons. Bien des signes réjouissants en donnent un ferme espoir. Malgré les spectacles douloureux du présent, il n'est pas permis aux chrétiens de désespérer de l'avenir. Le bras de l'Éternel n'est pas raccourci. L'Esprit est encore la puissance de Dieu. Il est capable d'accomplir cette résurrection de nos églises et du protestantisme tout entier. La vision d'Ézéchiel peut se réaliser pour nous. Dans cette vaste plaine où de nos jours, au milieu de beaucoup de cadavres, il y a cependant bien des vivants, n'entendez-vous pas comme le bruit de la vie qui rentre dans les morts, Les ossements secs se cherchent, se rapprochent et se dressent. Une chair nouvelle commence à les couvrir. Bientôt, il n'y aura plus qu'à crier comme le prophète « Esprit, Esprit, viens des quatre vents des cieux et souffle sur ces morts et qu'ils revivent. » Poussons ce cri, mes frères. Demandons une nouvelle Pentecôte. Demandons-la pour les églises libres, pour les églises nationales, pour l'Église catholique et pour tout le monde. Demandons-la dans nos réunions de prière. Demandons-la dans notre cabinet. Demandons-la dès aujourd'hui, ô mon Dieu, une nouvelle Pentecôte.